VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui. Eric Manilakidza avec vous. Au sommaire de cette édition du jeudi 23 mars 2023, le gouvernement éthiopien nomme une figure des rebelles tigréens à la tête du gouvernement régional par intérim. Nord du Burkina, 14 morts, dont 4 soldats dans une attaque djihadiste. Le Mali questionne la crédibilité d'un rapport de l'ONU sur des exactions. En Côte d'Ivoire, peine réduite en appel pour 26 militants pro-Bagbo. Un sénateur nigérien reconnu coupable à Londres par un tribunal local dans une affaire de trafic d'organes. Les soldats ougandais de la force de l'EAC vont se déployer dans l'est de la RDC, actuellement occupée par les rebelles du M23. Le président américain Joe Biden se rend ce jeudi au Canada pour une visite qui s'annonce fort cordiale. L'économie et les sports dans 10 minutes, mais d'abord le journal. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a nommé aujourd'hui Getachew Reda, une figure des rebelles du TPLF, président de l'administration par intérim de la région du Tigré, étape majeure dans l'application de l'accord de paix signé par les deux camps après 2 ans de guerre civile. Jacques Aristide.
Getachew Reda, conseiller de Debretsion Gebremichael, le chef du TPLF, Front de Libération du Peuple du Tigré, était jusque-là porte-parole du mouvement. Entre 2012 et 2018, il fut le ministre de l'Information du gouvernement fédéral, alors dirigé par Haile Mariam Desalegn. C'est Getachew Reda lui-même qui a paraphé avec Redwan Hussein, le conseiller à la sécurité d'Abiy Ahmed, l'accord de Pretoria conclu en novembre dernier avec la médiation de l'Union africaine. Sa nomination à la tête du gouvernement régional tigréen par intérim intervient au lendemain de la décision des députés éthiopiens de retirer le TPLF de la liste des entités terroristes, comme le recommande l'accord de paix, lequel prévoit également la tenue d'élections dans cette région du nord, où les combats ont cessé après avoir fait environ 500 000 morts, d'après les États-Unis. Ces avancées vers la paix interviennent après la récente visite à Addis Abeba du secrétaire d'État américain, lors de laquelle Anthony Blinken a mis la pression sur l'Éthiopie en liant la reprise d'un large partenariat économique avec Washington à la réconciliation et l'établissement des responsabilités dans les atrocités perpétrées au Tigré.
Les autorités maliennes ont émis des doutes ce jeudi sur la crédibilité d'un rapport de l'ONU qui a affirmé la veille que le nombre de personnes tuées dans le pays a augmenté de 54% en 2022 et a imputé plus d'un tiers des violations des droits humains à l'armée malienne et à ses alliés. Ce rapport ne donne aucune précision sur les sources de vérification des cas rapportés et ne permet pas au gouvernement de mener au besoin une confrontation et des enquêtes, a assuré le ministère des Affaires étrangères en réponse à une note trimestrielle de l'ONU sur les violations des droits humains entre octobre et décembre 2022. 14 personnes, dont 4 soldats, ont été tués hier mercredi lors d'une attaque près de Kaya, dans le nord du Burkina Faso, où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est en visite, ont indiqué ce jeudi des sources sécuritaires et locales. L'attaque a pris pour cible une unité de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie VDP, supplétif civil de l'armée à Zorkoum, à une dizaine de kilomètres de Kaya. Côte d'Ivoire, 2 ans de prison avec sursis pour 26 militants du parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Le tribunal les avait condamnés au préalable à 2 ans fermes pour trouble à l'ordre public. Leur peine a été réduite en appel. Alexandrine Rologna.
C'est un soulagement, a déclaré l'un de leurs avocats. Le 24 février dernier, ces militants, dont certains sont des cadres du parti de l'opposition PPACI, avaient été arrêtés et placés en détention en marge d'une manifestation à Abidjan. Amnesty International avait qualifié leur détention d'arbitraire et appelé à leur libération immédiate et inconditionnelle. Le gouvernement n'a donné aucune instruction pour faire arrêter qui que ce soit, a précisé le porte-parole du gouvernement ivoirien. Amadou Koulibaly a qualifié de sauvage la manifestation à laquelle avaient participé les militants d'opposition. Le climat politique en Côte d'Ivoire est à la décrispation depuis 2 ans, Des législatives se sont tenues dans le calme en mars 2021 et les opposants Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont fait leur retour dans le pays après leur acquittement par la Cour pénale internationale.
Près de 290 Ivoiriens ont été rapatriés ce jeudi depuis la Tunisie, où de nombreux migrants originaires d'Afrique subsaharienne ne se sentent plus en sécurité après un discours du président Kais Saied pourfendant l'immigration clandestine. Cela porte à 1053 le nombre d'Ivoiriens rapatriés de Tunisie depuis le 4 mars, a précisé l'ambassadeur ivoirien à Tunis. Un sénateur nigérian a été reconnu coupable par un tribunal londonien d'avoir voulu faire prélever l'an dernier le rein d'un jeune homme pour le faire greffer sur sa fille, Yakuba Ouedraogo.
En plus du sénateur Ike Ukeremadu, son épouse Béatrice et un médecin ayant servi d'intermédiaire ont été reconnus coupables d'avoir conspiré pour emmener au Royaume-Uni un jeune homme originaire de Lagos pour prélever son rein. La fille du couple, Sonia, 25 ans, a été innocentée. Les peines seront connues le 5 mars, mais elle risque la prison à vie en vertu de la loi sur l'esclavage moderne. La victime que les accusés avaient fait passer pour le cousin de Sonia était un vendeur de riz à Lagos auquel on avait promis, selon l'accusation, 7 800 € et la promesse de travailler et rester au Royaume-Uni. Durant le procès, le jeune homme a raconté qu'il pensait qu'on l'avait fait venir au Royaume-Uni pour travailler. Il dit que ce n'est que lorsqu'il s'est retrouvé face au médecin britannique qu'il a compris qu'il s'agissait d'une transplantation d'organes. Il s'est alors rendu à la police et l'opération n'a pas eu lieu. En Grande-Bretagne, il est légal de donner un rein de manière altruiste, mais illégal de le faire pour une récompense financière ou matérielle.
Après les Kenyans et les Burundais, les soldats ougandais de la Force et de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, vont commencer à se déployer d'ici fin mars dans les secteurs de l'Est de la RDC, actuellement occupés par les rebelles du M23. Un officier ougandais a annoncé qu'ils iront à Bunagana, Rutshuru, Mabenga et Kiwanja. Toujours en RDC, une quinzaine de personnes ont été tuées ces deux derniers jours par deux groupes armés à Ituri, province du nord-est du pays. Selon l'ONU, plus de 300 civils ont été massacrés depuis début décembre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Joe Biden se rend au Canada pour une visite qui s'annonce fort cordiale, mais ne devrait pas évacuer pour autant quelques sujets délicats liés au commerce, à l'immigration et aux dépenses militaires. Le président américain doit arriver ce jeudi en fin de journée à Ottawa et être reçu avec son épouse Jill Biden à la résidence du premier ministre canadien Justin Trudeau. Demain vendredi, les deux dirigeants auront une réunion de travail avant que Joe Biden ne s'adresse au Parlement canadien pour souligner, je cite, que le partenariat entre les États-Unis et le Canada ne bénéficie pas seulement à nos deux pays, mais au monde entier, a dit mardi un porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby. Le président Biden donnera ensuite une conférence de presse commune avec M. Trudeau avant un dîner de gala. L'armée chinoise a indiqué ce jeudi avoir chassé un navire de guerre américain ayant pénétré illégalement dans un archipel qu'elle contrôle la mer de Chine méridionale, un compte-rendu des faits jugé mensonger par les États-Unis. Mouamadou Oumfa.
Le destroyer USS Milius a pénétré illégalement jeudi, sans l'approbation des autorités chinoises, dans les eaux des Paracels, un archipel situé à équidistance des côtes chinoises et vietnamiennes, a indiqué dans un bref communiqué Tian Yunli, porte-parole du théâtre d'opération sud de l'armée chinoise. Des forces navales et aériennes ont été mobilisées pour suivre et surveiller ce navire, ainsi que lui lancer un avertissement et le faire quitter la zone, a-t-il souligné. Il a dénoncé une manœuvre américaine qui compromet la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. La déclaration de la République populaire de Chine est mensongère, a indiqué un porte-parole du commandement Indo-Pacifique de l'armée américaine. L'USS Milius mène des opérations de routine en mer de Chine méridionale et n'a pas été refoulé. Les États-Unis continueront de voler, naviguer et opérer là où le droit international le permet, a-t-il souligné. Cet incident survient dans un contexte de lutte d'influence entre Pékin et Washington dans cette zone maritime et de fortes rivalités sur plusieurs autres dossiers, dont Taïwan et TikTok.
L'Ukraine a annoncé ce jeudi vouloir profiter de l'usure des forces russes à Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'Est, pour très bientôt passer à l'offensive, tandis que le président Zelensky était en déplacement près du front sud dans la région de Kherson, partiellement occupée par la Russie.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce soir par Nathalie Barge.
Au Togo, un atelier pour former des experts et des fonctionnaires sur les réformes financières est en cours à Lomé jusqu'au 24 mars. Le programme du ministère de l'Économie vise à outiller plusieurs points focaux en matière de suivi des politiques de réforme et des programmes financiers. Il s'agit de renforcer les capacités de ces professionnels en prenant en compte les aspects participatifs et de genre. Lors d'une audition devant le Sénat à Washington, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a alerté sur la nécessité pour la Tunisie de trouver un accord avec le FMI pour éviter l'effondrement de son économie, faisant écho aux alertes du chef de la diplomatie européenne. Le pays négocie depuis des mois avec le Fonds monétaire international un prêt de près de 2 milliards de dollars, mais les discussions n'ont pas avancé depuis un accord de principe en octobre. La compagnie minière chinoise Huayou Cobalt a débuté la production de concentré de lithium sur le site minier d'Arcadia près de Harare au Zimbabwe, visant une production annuelle de 50 000 tonnes. Arcadia s'inscrit dans le cadre des investissements chinois en Afrique sur les métaux utilisés pour produire des batteries de véhicules électriques. La Chine contrôle 24% de l'offre mondiale de lithium.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Suite au jeudi des matchs de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023.
La République centrafricaine a arraché 3 points de plus dans ses éliminatoires en battant Madagascar 3-0 pour se relancer dans le groupe E. Les fauves du Bazoubangui comptent désormais 4 points plus 1, mais gardent la troisième place. Le Ghana s'est imposé dans le choc de ce groupe face à l'Angola 1-0 et prend la tête de la poule avec 7 points, suivi de l'Angola 4 points. Le Soudan du Sud a battu le Congo 2-1. Dans le groupe H, la Zambie a pris la première place grâce à sa victoire 3-1 devant le Lesotho en attendant la rencontre entre la Côte d'Ivoire et les Comores. Suspense dans le groupe I où le deuxième, le Gabon, accueille le Soudan. Le dernier match de ce soir oppose l'Algérie et le Niger dans le groupe F.
Le Bénin a enregistré hier son premier point dans ses éliminatoires.
Les Guépards ont arraché le match nul 1-1 devant les Amavubi du Rwanda. Le sélectionneur du Bénin se dit déçu du résultat, mais satisfait du contenu.
Extrêmement déçu du résultat. On méritait largement la victoire. Notre équipe a bien joué. Elle a mis un quart d'heure à se mettre en place, ce qui est normal avec 2 jours de préparation alors que l'adversaire avait 10 jours. Plus un match amical. Compte tenu de tout ça, l'équipe a répondu présent. Elle a fait un match où elle est allée crescendo, c'est-à-dire de mieux en mieux. Il y a eu des jeunes joueurs qui ont participé pour la première fois. On a eu aussi l'expérience de certains qu'on a vus qui est toujours très utile. C'est vrai qu'il nous manque ces 2 points. Mais si on gagne le match de lundi, avec 4 points, on peut toujours espérer.
Guenotro, sélectionneur du Bénin. Les Guépards restent derniers du groupe. Derrière, le Rwanda, deuxième avec 2 points. Le Sénégal est premier avec 6 points, suivi du Mozambique, 4 points. Dans le second match d'hier, la Sierra Leone et Sao Tomé et Principe se sont aussi neutralisés 2-2. Ce match nul ne change rien au classement des 2 formations dans la poule A. La Sierra Leone garde sa 3e position devant Sao Tomé et Principe. Le Nigeria et la Guinée-Bissau jouent les premiers rôles dans ce groupe.
L'Olympique lyonnais condamne les comportements racistes visant Houssein Aouar.
Le club français a condamné les sifflets et insultes racistes qui visent son milieu de terrain après le choix de ce dernier de représenter sportivement l'Algérie, entré en cours de jeu contre Nantes vendredi au Groupama Stadium. Houssein Aouar, en baisse de régime depuis plusieurs mois, a été sifflé alors que des supporters ont entonné la Marseillaise pour marquer leur désapprobation de son choix. Le milieu de terrain algérien de 24 ans est par ailleurs l'objet d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Le football est universel, a déclaré l'OL dans un message posté sur ses réseaux sociaux. Awa, produit de la formation lyonnaise, a officialisé le 16 mars sa décision de représenter sportivement l'Algérie après avoir été international espoir français et avoir obtenu une sélection avec l'équipe A des Bleus.
Et c'est tout pour les sports. Merci à toi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manirakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, plus de 400 rebelles ont été condamnés à la prison à vie par la justice, notamment pour atteinte à la vie de l'ancien président Idriss Déby Itno. Parmi les personnes condamnées figure Mahamat Mardi Ali, leader du FACT, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Joint par Mohamedou Onfa, il dénonce une parodie de justice.
Surpris, non. On sait très bien que de temps en temps, des mascarades, des simulacres de justice pareils sont organisés par la dictature et la junte au Tchad. Ça, c'est un non-événement. On sait très bien que même dans le passé, il y a d'autres personnalités politiques pour faire des rébellions et des résistances contre la dictature ont été condamnés à mort. C'est un non-événement, ça. Ce qui est condamnable, ce qu'il faut dénoncer avec toutes les forces, c'est le traitement qui a été réservé à des prisonniers de guerre qui, normalement, doivent être régis par la Convention de Genève, qui, normalement, ne doivent pas être traînés devant les tribunaux de droit commun.
Les audiences de la cour criminelle de la cour d'appel de N'Djamena se sont déroulées à huis clos dans l'enceinte d'une prison à une vingtaine de kilomètres de N'Djamena, ce qui fait dire à plusieurs organisations de défense des droits de l'homme qu'elles n'étaient pas équitables. Quel est votre avis?
C'est une comédie qui cherche à distraire l'opinion. C'est une imposture. Ce qui s'est passé là est tout sauf justice. Donc s'il y a justice dans ces pays-là, il faut rendre justice avec nous, moi. Supplicié par le régime dictatorial.
Le procès n'était peut-être pas équitable, mais les accusations sont bel et bien graves. On parle quand même de l'assassinat d'un chef d'État, non?
Je ne sais pas quel sens vous donneriez au mot assassinat. Dans notre entendement, l'assassinat doit logiquement s'entendre par préméditation de l'acte. L'acte n'a jamais été prémédité. Idriss Déby, il était combattant, belligérant, comme tous les autres belligérants. Il est parti au terrain, il est mort au terrain. Les conditions dans lesquelles il serait mort, là, c'est à ses camarades, à ses gardes de l'expliquer. D'ailleurs, ce jour-là, nous avons perdu aussi nos camarades. Et encore pire, il y a certains de nos camarades qui ont été faits prisonniers et sont passés par les armes sans aucune autre forme de procès.
Vous dites que les conditions dans lesquelles le président Déby est mort, il faut voir du côté de ses gardes. Ça veut dire que le FACT nie toute responsabilité dans cette mort?
Nous avons appris, comme tout le monde, de par les médias, que Idriss Déby est mort. On ne sait pas comment il est mort. On nous dit qu'il est venu au combat, il est mort. Et ceci d'autant plus que ce n'est pas nous qui avons récupéré sa dopie. Donc, les conditions dans lesquelles il est mort, comment il est mort, là, c'est en face qu'il faut les voir.
Alors, maintenant qu'il y a eu ces condamnations à la prison à vie, quelles peuvent être les conséquences de ce verdict pour vous-même et pour la lutte que le FACT mène depuis quelques années?
C'est un non-événement. La lutte des FACT continue. Nous, lorsque nous avons affirmé notre prédisposition à vouloir aller dialoguer et faire la paix, ce n'est pas uniquement avec la junte, mais avec tous les Tchadiens. Notre offre de dialogue et de réconciliation et de discussion avec tous les Tchadiens, elle est là. Mais nous prenons acte. La junte vient, par cet acte-là, rejeter toute démarche tendant à régler les problèmes tchadiens par la paix et par le dialogue. Là, il faut que ça soit clair à tout le monde. Les votes en guerre, c'est en face, c'est pas nous.
Mahamat Mahdi Ali, leader du FACT, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Bénin, l'insertion des femmes dans l'arène politique ne reçoit pas l'assentiment de tous, malgré les nombreuses sensibilisations.
L'application de la loi votée en 2019 et offrant diverses opportunités aux femmes est confrontée à des pesanteurs socioculturelles. Résultat, les femmes ont du mal trouver leur place dans le leadership politique. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Les femmes béninoises ont encore du mal à se frayer une voie vers les postes décisionnels. Sur le plan politique, le chemin paraît encore long, même si par l'entremise d'une réforme électorale, la chance leur a été donnée de se positionner. Sur 109 députés élus en janvier 2023, seuls 28 sont des femmes, et cela en raison du quota de 24 femmes imposé. Judith Lydia est membre du Bloc républicain, l'un des partis politiques proches du pouvoir. Elle pense que c'est un début prometteur.
C'est un geste très fort et c'est un grand pas.
C'est le début d'une révolution, c'est la concrétisation déjà d'une révolution. Nous remercions vraiment le chef de l'État, c'est un homme de parole, nous avons confiance en lui, nous savons que on va y arriver et que la femme sera célébrée comme cela se doit.
Une chose est de voter une loi accordant une place prépondérante à la femme au sein des partis politiques. C'en est une autre pour elle de surmonter les pesanteurs socioculturelles pour s'impliquer réellement dans le jeu politique. Pour Marielle Degboué, politique et membre de la société civile, il faut que les femmes prennent conscience du rôle qui leur revient dans la gestion de la cité.
Pour nous, l'absence des femmes aux instances de décision, c'est beaucoup plus le manque d'implication dans les initiatives. Lorsqu'il est question de politique, elles se préfèrent toujours en dessous. C'est normal lorsque l'on sait aussi que les réunions politiques sont des réunions nocturnes. Nous faisons partie de ces personnes qui continuent de croire que ces petites raisons-là ne devraient pas être des motifs de retrait des femmes au niveau des instances parce que la compétence, il y en a au sein des femmes.
Difficulté à concilier vie de couple, vie professionnelle et ambition politique. C'est l'argument avancé pour les évincer, mais elles assurent n'avoir aucun mal à s'en sortir, même si cela demande de réels sacrifices.
Ce n'est pas facile de jouer tant de rôles à la fois, mais je crois que la nature elle-même a créé la femme pour jouer tous ces rôles-là.
Si je ne fais pas une mission quelque part, tous les week-ends, je me retrouve en famille avec les enfants et pour quand même rester auprès d'eux.
Quand je finis mon travail professionnel ou mes activités politiques et que je suis à la maison, je suis totalement une femme. Je ne suis pas femme politique à la maison.
Dans le milieu professionnel, on est bien loin de la mobilisation escomptée. Les hommes ont encore du mal à accepter et recevoir des ordres venant d'une femme. Sénaléa Glago est rédactrice en chef dans une radio privée de la place. Pour elle, le combat est quotidien.
Et ce n'est pas facile déjà pour les hommes de se faire accepter par toute une rédaction composée d'hommes et de femmes. Et ça l'est encore moins pour des femmes. Mais on gère que les hommes grand âge déjà ont du mal à accepter des femmes journalistes, des femmes dans le métier. Parce qu'on s'est fait des stéréotypes, on s'est fait des clichés, et on s'est dit qu'une femme dans ce monde-là, c'est une femme débauchée. Qu'une femme n'accepte être une femme débauchée.
Une idée bien ancrée dans la société. Pour Michel Zocli, ingénieur agronome, les femmes n'ont rien à faire en politique ou au poste de décision. Selon lui, le Bénin est une société traditionnelle et la place de la femme se trouve à la maison auprès des enfants qu'elle doit éduquer.
Très souvent, elles n'ont pas le temps, elles ne sont pas à la maison. Elle désette le foyer. Or, en réalité, la femme devait rester beaucoup plus à la maison, s'occuper des enfants. Elles sont beaucoup plus tentées par les avances pour ce qui concerne leur métier.
Une vision à compte courant de l'opinion des législateurs béninois qui jugent la femme tout autant capable que l'homme dans tous les domaines d'activité. Selon le sociologue Mouleroa Mouzouvi, avec les défis du monde actuel, les gouvernants ont le devoir de donner aux femmes leur chance de prouver ce dont elles sont capables.
Responsabiliser la femme aujourd'hui est le seul moyen pour elle de s'imposer à l'homme. C'est un problème purement humain, c'est un problème purement social et il faut responsabiliser la femme.
De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Le président des États-Unis, Joe Biden, effectue une visite de 24 heures au Canada à compter de ce soir. Il s'agira de la première vraie rencontre bilatérale en personne avec le premier ministre canadien Justin Trudeau. Depuis 2009, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. Pour les enjeux de cette visite, Jean-Roger Dion a joint à Ottawa le politologue Serge Banyongen, de l'Université d'Ottawa.
Côté canadien,
Il y a cette question de la frontière où justement nous avons de plus en plus d'informations que parce qu'il y a cet accord du tiers pays sud, beaucoup de migrants viennent et surtout par les différentes frontières de manière illégale pour se réfugier au Canada et ça pose un impact énorme sur les provinces comme l'Ouest qui a d'ailleurs obtenu d'autres provinces comme l'Ontario, Nouveau-Brunswick qu'on puisse diviser ces gens qui arrivent comme ça. Alors l'idée serait que les États-Unis fassent leur part pour empêcher que justement la frontière canadienne soit très mise à mal, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors c'est un enjeu énorme, même à l'intérieur du Canada, parce que justement, cela dure depuis un certain temps dans ce qu'on appelle le chemin Roxham au niveau du Québec. Et là, les autorités québécoises sont un peu débordées. Et elles ont requis l'assistance d'autres provinces, mais le problème commence à vraiment se poser. Donc la question du tiers pays sur cet accord-là, vraiment, qui a amené beaucoup de réfugiés chez nous, est le principal, un des enjeux principaux pour le Canada.
Il y a eu de nombreux accrochages entre Washington et Ottawa sur la question commerciale. Sur quelle base les deux dirigeants peuvent reconstruire la confiance?
Oui, la question commerciale, surtout, un des éléments importants que nous avions, c'est-à-dire que le pipeline Keystone, pipeline qui devait transporter le pétrole brut des sables bitumineux d'Albertin jusqu'aux côtes américaines, est l'élément un peu compliqué et complexe parce que la base électorale, justement, du président Biden est une base qui a des affinités environnementalistes très poussées. Ils ne veulent pas de ce projet. Tandis que c'est très difficile pour que le Canada se prononce contre parce que le gouvernement fédéral a déjà beaucoup discuté avec le gouvernement albertain et c'est un projet qui est extrêmement important pour le gouvernement albertain. Donc, ces enjeux commerciaux-là sont là importants. Mais on peut quand même dire qu'il y a un certain nombre de convergences purement idéologique entre le président Biden et le premier ministre Trudeau, notamment sur le rôle que, par exemple, sur le caractère multilatéral, sur les accords internationaux et sur le rôle que doivent jouer les deux pays au niveau international.
Monsieur Bayogan, il se dit aussi que la question de la sécurité à Haïti sera au centre des discussions entre Biden et Trudeau.
Du côté américain, quand même, ils ont absolument besoin que le Canada s'engage un peu plus. Et c'est une demande qui est toujours revenue sur le plan purement militaire, et notamment maintenant en Haïti. Parce que l'enjeu, c'est que les Américains ont formellement demandé au Canada de prendre le leadership pour avoir déporté une intervention militaire en Haïti. Le Canada, pour des raisons purement qu'on peut comprendre, n'est pas tout à fait chaud et il traîne un peu les pieds. C'est sûr que le président américain va un peu insister pour que le Canada s'engage un peu plus en Haïti. Sous quelle forme on va le faire, ça reste à voir.
Serge Banyongan, enseignant à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. La Banque centrale américaine Fed a mis à jour ses prévisions économiques dont les précédentes remontaient à décembre. Les prévisions de croissance du produit intérieur brut ont été révisées en légère baisse. La Fed a par ailleurs relevé son taux d'un quart de point de pourcentage hier mercredi en vue de rechercher l'équilibre entre sa lutte contre l'inflation et les turbulences sur le secteur bancaire qui risquent de peser sur l'économie. Le principal taux directeur de la Fed se situe désormais dans une fourchette de 4,75 à 5,00% au plus haut niveau depuis 2006. Pour analyse, VOA Afrique a joint le professeur Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group.
Oui, dans un sens, je pense, parce que s'il n'avait pas fait la hausse, comme tout le monde l'avait annoncé déjà il y a plusieurs semaines, s'il ne l'avait pas fait, ça aurait prouvé à tout le monde qu'il y a vraiment une crise difficile. S'il avait fait une hausse plus forte, ça voudrait dire que l'inflation serait vraiment trop grande, donc ça gênerait tout le monde. Donc ils ont fait un chemin entre les deux. Et je pense que c'est une façon de trouver un équilibre. C'est pas extraordinaire, mais c'était la solution la moins mauvaise, je pense.
C'est une fourchette au plus haut niveau depuis 2006.
Oui, c'est vrai, mais il faut se rappeler qu'en 1985, les taux étaient à 14%. Donc, il faut voir que s'ils veulent vraiment combattre l'inflation, je pense que c'est la priorité actuelle. Il faut qu'ils fassent un effort pour essayer de limiter les hausses des prix et donc un peu limiter l'économie. Alors le problème, bien sûr, c'est que ça crée des problèmes pour les les banques, pour certaines banques en particulier, et donc ils sont obligés de prendre des résolutions assez importantes sur de fournir des liquidités aux plus petites banques en fait.
Le professeur Jean-François Seznec, joint de la ville d'Annapolis dans l'État américain du Maryland. Ainsi va le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnon. Je vous souhaite une excellente soirée, à l'écoute.